Amis, nous arrivons déjà au soir du 12 août et nous n'avons plus que, après cette soirée, deux rencontres encore où nous vous parlerons de ce sujet interroge les bêtes et elles t'instruiront. Texte que vous trouvez dans le livre de Job au chapitre 12e et au verset 7e. Et ce soir, nous allons tout de suite écouter le Seigneur Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve nous faire la description d'une de ses créatures. Je lis encore dans le livre de Job. Du sein du tourbillon, Dieu fait entendre sa voix au patriarche affligé. Et il lui dit ceci, au verset 29e du chapitre 39 de Job. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Seigneur, bénis ta parole, et que ce soir encore, elle trouve le chemin de nos cœurs, et que par ces êtres que tu as créés, tu nous enseignes quelques leçons correspondant à nos besoins. C'est notre prière, sachant que tu nous exauceras en Jésus-Christ. Amen. Job, chapitre 39e, versets 29 à 33. Mes amis, après le lion, roi des animaux sauvages, après le bœuf ou le taureau, roi des animaux domestiques, nous vous avons dit que nous considérerions les leçons que nous pouvons apprendre de l'aigle, le roi des oiseaux, le roi des airs. Dans le tableau que vous connaissez certainement, que nous donne le prophète Ézéchiel dans ce chapitre extraordinaire qui ouvre son livre, le chapitre premier, où il nous parle des chérubins qui portent le trône de Dieu, il nous dit que chaque chérubin avait quatre faces, la face d'un aigle, la face d'un homme, la face d'un taureau et la face d'un lion. La face de l'aigle est le symbole de l'intelligence qui contemple, alors que l'homme symbolise l'intelligence qui agit, tandis que la face du taureau représente la puissance créatrice et, comme nous vous l'avons montré, la face du lion, la force destructive. Alors occupons-nous ce soir de l'aigle, le roi des airs. Et avant de vous citer encore d'autres versets, je voudrais un peu résumer ce que nous savons sur les aigles. Les mœurs de l'aigle sont intéressantes à étudier, surtout à cause des allusions nombreuses qui fait les Saintes Écritures. Le nid de l'aigle porte quel nom? L'air, A-I-R-E. Et on croit même que la même air sert à l'aigle de demeure pendant toute sa vie. Il déménage moins que les Québécois. Et savez-vous combien un aigle peut vivre? On a vu le lion, il peut vivre 40 ans. Le bœuf, il en a fini au bout de 15 ans. Et l'aigle, 100 ans. Ça, ça vaut la peine. Hein? Et le Seigneur nous fait des promesses. Même si le cœur s'arrête, il peut nous amener aussi à 100 ans, s'il le veut. C'est lui qui a compté nos jours. Et c'est lui qui a fixé une heure où ils se termineront. Peu importe la durée, nous sommes dépréoccupés de cette question. Nos temps sont dans sa main, c'est un destin digne d'envie et sans souci du lendemain. Car, si le Seigneur nous rappelle, ce n'est pas une catastrophe, puisque l'apôtre Paul disait, « Pour moi, vivre la vie, c'est le Christ, et puis mourir, mais c'est un gain, car être auprès du Christ, cela est de beaucoup. » Meilleur. Alors, ce n'est pas catastrophique de s'en aller vers le Seigneur. Donc, nous sommes tout à fait dépréoccupés de cette question. Mais nous voudrions que le peu de temps qu'il nous reste à vivre, parce que même un siècle, ce n'est pas long, eh bien, que nous puissions vivre ce temps pour glorifier le Seigneur. Donc, on a observé que le même aigle pouvait rester dans son aire toute sa vie. Et cette aire est placée ordinairement au midi. Les naturalistes ont contrôlé les enseignements de l'Écriture. Il place son aire au midi entre des rochers véritablement à pic, dans les lieux les plus difficiles d'accès. Et le nid est construit avec des branches, savez-vous de quelle longueur? C'est des travailleurs, les aigles. Et ils ont des muscles. 1,80 m à 2 m, la longueur des branches qui forment leur nid, et qu'ils entrelacent de rameaux, de bruyères. Et comme ils aiment aussi le confort, ils recouvrent tout cela de peaux d'animaux qu'ils ont chassés. Et ils sont là très confortables dans leur nid inaccessible. Et leur nid est construit de telle manière que la saillie du rocher abrite le nid. Ils ne sont pas bêtes, les aigles. Pour des animaux, c'est pas si bête. Et Dieu dit que c'est lui qui les a instruits, que c'est Dieu lui-même qui leur a donné cette intelligence et qui leur donne aussi ses ordres. La mère pond 2, 3 ou même 4 œufs et elle les couve pendant 30 jours. Comme les aiglons sont très voraces, aussitôt qu'ils sont éclos, les parents alors doivent partir en chasse pour eux. Et ils partent au lever du soleil. Et la mère accompagne le père et le père accompagne la mère. Puis ils reviennent et nourrissent leurs petits et cela pendant 3 ou 4 mois. Et après cela, les petits s'en vont du nid pour ne plus jamais y revenir. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important. Ils vont faire un nid ailleurs. Ils n'ennuient pas les vieux parents. Quelle est la grandeur du corps de l'aigle. Eh bien, l'aigle royal, il mesure au moins son corps depuis la tête jusqu'à la queue. Savez-vous combien? Une belle petite machine. 1 mètre 20. Et quand il déploie ses ailes, savez-vous quelle est l'envergure de l'aigle royal en Israël ou ailleurs? 2 mètres 50. Ça fait quand même quelque chose. Et ses ailes sont très fortes. Quant à la vue de l'aigle, vous savez qu'elle est perçante, Dieu le dit lui-même. Et sa vue lui permet de voir sa proie de très loin. Est-ce que vous aussi, vous avez une bonne vue? Vous voyez ce que vous devez saisir de très loin? Est-ce que dans ce camp, vous avez vu quelque chose que vous deviez saisir? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous vous êtes envolé? Et maintenant qu'elle est bien sous vous, qu'est-ce que vous faites? L'aigle plie ses plumes, referme ses ailes, et s'est tombé. Est-ce que vous vous êtes laissé tomber sur une vérité? Pour la saisir avec vos serres, si vous en avez, afin que cette vérité vous appartienne. Vous pouviez aussi faire de certaines vérités une proie pour vous, afin de vous en nourrir. Comme l'aigle, quand il survole de très haut sa proie et qu'il la voit, tout à coup, il ferme ses ailes et il se laisse tomber comme une pierre, de sorte que la proie ne peut pas lui échapper et il tombe sur elle si fort que c'est fini. Et ensuite, il la prend dans ses serres et puis il l'emmène sur le rocher et là, il s'en nourrit ou en nourrit ses petits. Est-ce que vous n'apprendrez rien de la vie des aigles? Chaque matin au lever du soleil. Et ils volent contre le soleil. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné des lunettes contre le soleil. Dieu est le grand opticien des aigles. Et ces aigles qui ont leurs yeux dans des cavités profondes sont pourvus d'une seconde paupière transparente qui se relève et qui s'abaisse à volonté, de sorte que l'aigle peut fixer le soleil sans être aveuglé. Ce n'est pas que c'est merveilleux. On parle du radar des chauves-souris, hein. Mais les scientifiques n'ont encore pas découvert tout ce que Dieu a donné comme perfection aux animaux qui nous entourent, mais beaucoup sont amenés à la fois par leurs observations, disons, c'est pas possible. Il y a une intelligence qui a créé toute chose. Et combien de savants qui étaient des incroyants, quand ils ont eu plus de science, se sont tournés vers le Seigneur et ont embrassé la foi quand ils ont vu que tout cela c'était déjà dans la Bible. Job, le patriarche qui vivait au pays des hommes sans Bible, celui qui vivait au temps d'Abraham ou de Moïse, comme on le suppose, eh bien, il avait déjà un enseignement extraordinaire au sujet des bêtes. Et c'est pourquoi c'est lui qui a dit « Interroge les bêtes et elles t'instruiront ». Je voudrais maintenant vous aider, vous citer quelques portions des Écritures pour que vous puissiez vous-même méditer les leçons que les aigles peuvent nous apprendre. Je prendrai d'abord dans Exode, chapitre 19, verset 4e. Il y aurait d'autres passages qui correspondent. Deutéronome 28, verset 49e, comme aussi Proverbe 23, verset 5, et Proverbe 30, verset 19e pour ceux qui veulent personnellement faire une étude sur ce que la Bible nous apprend des aigles. C'est Dieu lui-même qui parle à Israël au chapitre 19e du livre de l'Exode, au verset 4e, et il dit aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » L'action que Dieu a fait pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, il la compare à ce que fait un aigle qui prend ses petits sur ses ailes pour les amener jusqu'au nid quand ils ne savent pas encore bien voler. Et le Seigneur nous montre donc que l'aigle a une puissance de vol et une rapidité extraordinaire. Cela, Dieu se l'attribue. Je vous ai délivré comme l'aigle, je vous ai porté sur des ailes comme sur des ailes d'aigle. Mais en même temps, il avertit Israël que si lui, ce peuple, ne veut pas suivre ses voies, des nations viendront pour le châtier avec une rapidité effroyable. Et vous avez cela au chapitre 28 du Deutéronome, au verset 49e. Si tu ne suis pas mes commandements, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de l'aigle qui a vu sa proie. Il tombe et vous ne pouvez pas y échapper. Prenez encore ce verset que je vous citais dans les Proverbes pour vous montrer que toutes les parties de la Bible sont dans un accord parfait au sujet de l'enseignement que nous trouvons. Chapitre 23 des Proverbes, verset 5e. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Il parle des richesses. Veux-tu poursuivre d'un regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Et on ne le retrouve plus. Comme l'aigle, la richesse s'en va. Avec la même rapidité, tu t'étais confié dans tes richesses et maintenant, elles ne sont plus comme l'aigle, elles sont parties vers les cieux. Prenez encore sur ce thème de la rapidité du vol de l'aigle, chapitre 30, verset 19 du livre des Proverbes. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Et la première chose qu'il cite, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. C'est si rapide que déjà on ne trouve plus sa trace. Maintenant, pour vous montrer l'ardeur de l'aigle à chercher sa proie, prenez le livre de Job au chapitre 9e. Job, chapitre 9, verset 26e. Parlant de ces jours qui passent avec rapidité dans la souffrance, ces jours qui vont bientôt prendre fin, Job dit, ils passent comme des navires de joncs, comme l'aigle qui fond sur sa proie. C'est de nouveau la même pensée. Nos jours passent avec rapidité, mais aussi l'ardeur de l'aigle qui fond sur sa proie pour apporter la nourriture à ses petits. Et dans Proverbe 30, verset 17e, un texte que je vous ai déjà cité au sujet du corbeau. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. Et je vous ai dit que le plat préféré des corbeaux, c'était les yeux morts des animaux. C'est là leur régal. Et c'est aussi le régal des aigles. Comme nous, les humains, les animaux ont leur plat préféré. Et nous, nous mangeons des cuisses de grenouille. Eh bien, eux, ces aigles, ou ces petits du corbeau, ce qu'ils aiment, c'est les yeux d'animaux, et si vous le voulez aussi, les yeux de l'homme. Et je crois que nous pourrions méditer avec profit sur ce qui nous est dit ici. Attention, jeunes gens, attention, jeunes filles, honorez vos parents, car un jugement peut fondre sur vous de la part de votre Créateur. Maintenant, j'arrive à un texte qui fait mon bonheur, qui fait mes délices. C'est le chapitre 32 du Deutéronome. Il m'a accompagné toute ma vie. Deutéronome, chapitre 32e, à partir du verset 10e. Il est parlé des soins de Dieu pour Israël. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Est-ce que vous avez déjà connu cette solitude qui hurle? Cette solitude aux effroyables hurlements quand on se trouve tout seul, abandonné de ses amis, abandonné des êtres qui nous étaient chers ou qui nous sont encore chers, mais qui ne nous comprennent pas. Une solitude aux effroyables hurlements. Eh bien, prenez cette parole pour vous, si vous êtes dans cette solitude qui hurle. Il l'a entouré. Ça, c'est le Seigneur. Il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse, des agneaux, des béliers de Basan et des boucs avec la fleur du froment, et il a bu le sang des raisins. Voilà donc tous les soins de Dieu qui sont résumés pour montrer sa sollicitude à l'égard de son peuple. Il a été comme un aigle qui non seulement a délivré Israël de la servitude de l'Égypte, mais il en a pris soin dans le désert. Et de nouveau, les naturalistes ont voulu examiner de près, autant qu'il était possible, si c'était vrai ce qui est dit là. Et ils ont constaté que la Bible était d'une exactitude remarquable. J'ai dit que dès qu'ils sont éclos, que dès qu'ils sont sortis de l'œuf, les petits aiglons manifestent une voracité extraordinaire. Et les parents doivent travailler très fort pour les nourrir pendant ces 3 ou 4 mois où ils restent auprès de leurs parents. Et les parents, non contents de les nourrir, leur apprennent à voler de leurs propres ailes. Mais au début, les petits aiglons sont tellement bien dans le nid de papa et de maman qu'ils voudraient y rester. Alors l'aigle qui a un bec bien crochu et la maman aigle qui pense à l'avenir de son enfant et qui sait que même si elle vit 100 ans, il faut que son enfant ne vive pas toujours à son crochet, alors on veut lui apprendre à voler. Alors même si les petits commencent à piailler, la mère aigle ou le père les prennent et les sortent du nid. Et les amène au bord du rocher, tout au bord du rocher. Alors ces petits qui piaillent sont tout tremblants. Alors l'aigle, un moment, se met à côté et les petits montent sur leurs ailes. Et quand les petits sont agrippés sur l'aile, eh bien la mère s'en va, plonge dans le vide. Et alors, eh bien, c'est leur premier vol, c'est le baptême de l'air pour les petits, et ils n'ont pas tellement mal au cœur, ils commencent à être très heureux, mais tout à coup, eh bien, c'est comme un trou d'air. Paf ! C'est la mère qui secoue ses plumes, et les petits qui tombent. Et c'est justement dans leur chute que le petit aiglon se rend compte qu'il a des ailes. Et il sort son parachute, comme ça. Mais s'il n'était pas tombé, eh bien, il n'aurait pas eu cet instinct d'ouvrir ses ailes. Alors, tout à coup, la chute commence à ralentir, et puis, ça va. Alors, il ne va pas plus bas, et il commence à voler. Mais comme il est vite essoufflé, qu'est-ce que l'on voit? La mer qui l'essuie passe par-dessous, et le petit se pend. Et on recommence. La mère les porte un bout, puis quand ils ont repris leur souffle, ils se coussent. Et puis voilà. Et puis ils font des cercles de plus en plus grands sous la lumière du soleil. Et quand maman aigle estime que l'exercice est terminé pour aujourd'hui, elle passe définitivement sous ses petits, elle les ramène sur le rocher. Et le père regarde tout cela, ou vient à l'aide de la mère. C'est quelque chose de merveilleux. L'unité du couple pour les enfants. Là encore, pas de divorce chez les aigles. Ils travaillent ensemble pour que leurs enfants soient heureux et puissent s'envoler eux-mêmes sans avoir un mauvais souvenir. Et ils sont tellement heureux qu'ils ne reviennent pas au nid. Ils font un nid pour eux et ils s'en vont plus loin. Vous savez, interroge les bêtes et elles t'instruiront. La Bible, c'est un livre qui peut rendre quelqu'un très savant. Et vous pouvez vous fier à ces descriptions bibliques, car tout était contrôlé par le Créateur qui a fait tous ces animaux. Et on n'a pas encore tout vu. Et vous savez, les avions et tout cela, ben c'est que de l'imitation, de la pauvre imitation. Quand vous voyez les... Et puis ce silence, puis ne pollue pas tellement. Si vous vous trouvez dessous un jour, et puis qu'il vous arrive un de ces soulagements d'aide, comme la fiente de pigeon, ça peut arriver, mais ça peut être un aigle une fois. Alors, reprenons maintenant le texte, après ce texte du Deutéronome que je trouve vraiment magnifique. Vous ne trouvez pas magnifique? Ça nous incite à lire la Bible. Hein? Vous faites des mots croisés. Ben, cherchez. J'ai de la joie en ta parole, dit le psalmiste, comme un homme qui trouve un grand butin. Cherchez, mangez cette parole et vous aurez une culture. Pas la culture qu'on vous donne dans les grandes écoles, peut-être, mais cette culture biblique qui vous donnera cette sagesse qu'ont encore les animaux, alors que les hommes sont devenus stupides par leur science, comme le dit le prophète Jérémie. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Reprenons maintenant le texte que j'ai lu au début pour introduire notre message sur la description que Dieu fait de l'aigle. Est-ce que vous vous souvenez du chapitre que j'ai cité? Job 39. Et vous verrez que dans ces quelques versets, nous sont révélés tous les traits caractéristiques de l'aigle. Est-ce par ton intelligence que l'épervier, c'est un petit aigle, un aigle de moindre dimension, prend son vol, qu'il étend ses ailes vers le midi? Et on a constaté que le nid d'aigle est toujours tourné vers le midi. Bon. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Donc, il y a d'abord la puissance de son vol, hein, puis ensuite la hauteur de son air dans les rochers abrupts. Puis, il est dit, sur la cime des rochers, de là il épie sa proie. la pénétration de son regard. Il plonge au loin ses regards. Il a une vision qui lui permet de voir ce qui va arriver, ce qui est devant. Est-ce que vous, vous avez cette vision? Cette vision même que j'appellerais eschatologique, de ce qui va arriver, des événements futurs. L'aigle plonge ses regards dans le lointain. Puis après, il est dit qu'il voit donc de loin sa proie. Il est question de son ardeur aussi à saisir sa proie et la manière dont il nourrit ses petits, de telle sorte que les petits, eh bien, boivent le sang. Ça ne veut pas dire qu'ils boivent le sang comme ça, glou glou glou, mais ils ont de la viande saignante. C'est-à-dire que l'aigle, les parents, apportent la viande encore chaude à leurs enfants. Et nous voyons ainsi, dans ces quelques versets, au fond, tout ce qui caractérise la vie de l'aigle. Maintenant, je passe au psaume 103e, et nous terminerons ensuite par un texte d'Ésaïe au chapitre 40e. Il y aurait une foule d'autres textes qui nous parlent de l'aigle, mais je voudrais seulement vous souligner ceux qui me paraissent être les plus simples et les plus capables de vous apporter une instruction. Dans le psaume 103e, qui est de David, il est dit, parlant du Seigneur, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Est-ce qu'il l'a fait? Vous avez accepté son pardon? « Qui guérit toutes tes maladies. » Est-ce que vous croyez qu'il peut aussi mettre sa main sur vos corps pour vous guérir? « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Parce que vous savez, s'il arrive à 100 ans, eh bien, il est encore en possession, à cet âge très avancé, de possibilités remarquables. Il y a pour l'aigle, je ne vais pas entrer dans les détails, un rajeunissement. Et là encore, les savants essayent de trouver ce qui permet à l'aigle d'arriver à une telle longévité. Donc, on a constaté qu'un aigle pouvait vivre 100 ans. Eh bien, qu'est-ce qui lui permet de vivre aussi longtemps? Et ce que nous savons en tout cas, c'est que c'est Dieu qui donne à l'aigle sa force. Alors, est-ce que vous ne valez pas beaucoup mieux que les aigles? S'il donne sa force aux aigles, combien plus donnera-t-il sa force à ceux qui se confient en lui? Alors lisons Ésaïe pour terminer, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Voulez-vous prendre cette parole pour vous? C'est l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Mais non seulement il donne du repos, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. N'est-ce pas merveilleux? Voilà la parole. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Voilà, une parole qui est pour vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Retirez vos ailes. Laissez-vous tomber sur cette parole. Et saisissez-la. Prenez cette parole pour vous, dans vos serres. Et puis, déchirez cette parole avec votre bec. Et mangez cette nourriture, vous aurez une force nouvelle. Les adolescents se fatigueront et se lasseront, les jeunes hommes chancelleront, mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Voilà le secret. Les aigles n'ont pas abandonné leur confiance dans leur Créateur. La création tout entière n'a pas renié son Créateur. C'est pourquoi Dieu veut nous donner, à nous qui bien souvent avons renié notre Créateur, à nous qui ne connaissons plus une relation intime avec le Créateur, il nous donne des leçons par les animaux. Ils prennent le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Et bien qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, jusqu'à la fin de ce temps et jusqu'à la fin de nos jours. J'ai eu une émotion l'autre jour. Je vous ai parlé d'Abraham. Et je vous ai dit qu'au mois de juillet, moi-même, j'avais 50 ans de vie avec Jésus, avec le Seigneur. Puis je ne sais pas pourquoi, tout à coup, je me suis dit, dans 50 ans de vie avec Jésus, Abraham avait 75 ans quand il est entré dans le pays de Canaan, qu'il a commencé sa vie avec Dieu. Puis tout à coup, j'ai eu une émotion. Parce que je me suis dit, à quel âge est-ce qu'il est mort, Abraham? Et j'étais persuadé que c'était à 125 ans. Donc, après 50 ans. Et comme on avait dit que dans notre message de Nouvel An, encore une année, peut-être que c'est ma dernière année, avions-nous pensé. Alors, tout à coup, je me suis dit, oui, alors, et Abraham mourut, âgé de 125 ans, dans une bonne vieillesse, je ne me trouve pas encore trop vieux, mais enfin, tout à coup, voilà, je ne sais pas pourquoi cette pensée m'est venue, ben, c'est peut-être très proche ta fin. Alors, c'est peut-être en tout cas le dernier temps, et tu vas devoir paraître devant le Seigneur. Et c'est catastrophique. Vous savez, c'est un bon petit rappel. Puis, je me suis dit, il faut quand même que je contrôle, parce que j'ai une femme que j'ai, puis je voudrais bien encore vivre un peu près d'elle pour ne pas lui donner trop de chagrin. Enfin, je pense que ce serait peut-être un peu un chagrin. Alors là, dans ma tour, j'ai contrôlé. Et quelle catastrophe! Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'il avait vécu jusqu'à 175 ans. Donc, j'en avais peut-être encore pour 50. 50 ans de vie avec Jésus, et pourquoi pas, si le Seigneur n'est pas encore revenu, 50 ans pour lui, si je dois vivre, il en vaut la peine. Alors demandons au Seigneur que nous ayons une vie qui vaille la peine. Et quant à vos forces, souvenez-vous de l'aigle, des leçons de l'aigle. Puis aimez la parole, aimez la Bible. Je ne dis pas devenez des fanatiques de la Bible. Je ne dis pas adorer la Bible. Non, la Bible, on ne l'adore pas. Comment? La vitamine B. Oui, mais nous aimons la parole de Dieu que la Bible nous révèle. Et nous faisons de cette parole notre nourriture. Et nous ne disons pas que cette parole nous a tués, mais ta parole m'a fait. Voulons prier. Dieu notre Père, nous sommes toujours émerveillés devant les richesses de ta parole et de penser que tu nous donnes des leçons, nous rappelant ton amour pour ton peuple Israël, en nous rappelant ces créatures que tu as appelées à l'existence. Ô Dieu, donne-nous de nous en souvenir, d'avoir des yeux ouverts, des oreilles ouvertes et une intelligence ouverte, ainsi qu'un cœur ouvert. Seigneur, nous allons bientôt terminer ce camp. Les uns et les autres vont repartir dans leurs foyers respectifs. Nous aurons passé ensemble des heures au pied de Jésus, recherchant ensemble à découvrir les merveilles de ta loi. Se pourrait-il qu'il y ait encore parmi nous des cœurs fermés? Et nous pensons qu'il y en a. Et c'est pourquoi nous voulons te supplier que dans ces dernières journées, tu parles avec tant d'amour, avec tant de force, que nous soyons convaincus, non par la voix humaine, mais par ton esprit, des vérités et que tu nous rappelles, et que ces vérités ne restent plus extérieures à nos vies, mais nous deviennent intérieures, et que nous puissions connaître en chacun de nous ce que veut dire la puissance de Dieu.
qui nous fait triompher dans toutes nos circonstances, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.